L'invité du grand entretien ce matin est une philosophe qui, dans son dernier ouvrage, s'est interrogée sur la question du bonheur. Le bonheur, c'est évidemment ce que l'on se souhaite de plus cher en ce premier jour de l'année, mais cette tradition des vœux, des souhaits que l'on fait pour soi-même et pour les autres est sacrément bousculée. Difficile en effet de se promettre tout le bonheur du monde après ce que l'épidémie de coronavirus nous a appris de nous et appris de la vie. Difficile tout simplement depuis presque 2 ans maintenant d'être léger, de faire semblant d'être insouciant, bref, de se croire ou de se sentir peut-être profondément heureux. Bonjour Marianne Chaillon.
Bonjour.
Et merci. Bonne année. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure de philosophie à Marseille. Vous êtes une spécialiste de la pop culture et vous venez surtout de signer un essai, Où donc est le bonheur, paru aux éditions des Équateurs. Marianne Chaillon, entrons dans le vif du sujet et commençons peut-être par une provocation. Est-ce qu'il est raisonnable, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, cette crise épidémique qui s'étire et qui n'en finit plus, est-ce qu'il est raisonnable de continuer à présenter ses vœux ?
Oui, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal dans une situation si dramatique que celle que nous connaissons de se souhaiter le bonheur. Mais précisément, et c'est le but de mon livre, je pense qu'on peut, en dépit de tout ce qui nous arrive, avec lucidité, sans naïveté et sans faux-semblant, sans illusion, je pense qu'on peut encore espérer connaître le bonheur.
En fait, ce qui est compliqué dans la période, c'est d'avoir du mal, ou voire de ne plus pouvoir se projeter. Or, faire un vœu, c'est forcément imaginer la suite, c'est forcément espérer dans la suite. Est-ce qu'il faut accepter en ce moment de ne plus avoir de projet, de ne plus avoir de vrais projets ?
Mais je crois que ce que nous apprend cette crise, qui effectivement change notre rapport à la temporalité, à cette capacité à se projeter peut-être, ça n'est jamais qu'une vérité qui est vraie en tout temps, mais qu'aujourd'hui nous voyons de manière plus aiguë. Mais en tout temps, lorsque nous faisons des vœux, lorsque l'année s'ouvre, ces vœux sont tout à fait illusoires. Nous sommes tout autant qu'aujourd'hui soumis à la précarité de nos existences. Simplement aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est seulement ça, je crois, la différence.
Mais c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir besoin de se projeter ? Vous dites, notamment dans votre livre, que c'est le mal du siècle, finalement, d'avoir toujours ce besoin d'aller de l'avant.
C'est à la fois quelque chose de positif, en tant que ça relève d'un élan vital de se projeter vers l'avant, mais ça peut effectivement être quelque chose de dangereux si regarder devant soi nous empêche de regarder le moment présent. Et effectivement, penser à l'avenir ou rappeler le passé qui n'est plus, c'est laisser échapper le seul moment qui nous appartienne véritablement, qui est le présent. Et de ce point de vue, la crise qui nous montre bien, la crise sanitaire, qui nous montre bien que l'avenir est ô combien incertain, nous force à nous recentrer sur l'instant présent.
Et cet avenir qui est incertain, on a eu besoin de le transformer au début. Souvenons-nous, on espérait, on parlait d'un nouveau monde possible. C'était juste pour pouvoir tenir qu'on a parlé de ça ou pas ?
Oui. C'était assez amusant et triste à la fois. Comment immédiatement on fleurit ces formules du monde d'après et on essayait d'imaginer ce que serait le monde d'après. Comme si cette crise sanitaire et ce qui nous pèse en elle était une forme d'erreur, de dévoiement de ce que serait l'existence normale. Mais encore une fois, je pense que pour tous ceux qui ne travaillent pas dans les hôpitaux, qui sont au contact de la maladie et de la mort, pour nous, nous avons cette espèce de sidération devant le miroir qui nous est renvoyé de l'extrême précarité de l'existence. Mais au fond, ça n'est encore une fois jamais que l'essence même de la vie que nous avons sous les yeux. Et ce n'est pas simple à regarder.
Ce monde d'après, vous, Marianne Chaillon, vous n'y avez jamais cru. Vous avez tout de suite compris ce que ça signifiait.
En tout cas, ça me montrait à quel point il est douloureux de regarder le réel en face et qu'on a besoin d'imaginer un ailleurs ou un après parce que ce que nous montre le réel, si on essaye de l'observer, est particulièrement douloureux et semblerait interdire la possibilité du bonheur, ce à quoi je ne crois pas en revanche. Effectivement, le réel est douloureux, mais je pense qu'on peut, en dépit de la douleur et de la souffrance, accéder à une expérience du bonheur.
Alors parlons-en de cette expérience du bonheur, surtout en ce premier jour de l'année. À quoi est-ce qu'il ressemble ? J'aime beaucoup la définition que donne Flaubert, que vous retranscrivez dans votre livre, et que je vais me permettre de citer. « Je hais cette recherche de béatitude terrestre, écrit-il. Elle me semble une manie médiocre et dangereuse. Soyons persuadés que le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. » C'est d'une violence inouïe. En somme, on court après quelque chose qui n'existe pas. C'est ça que nous dit Flaubert.
Oui, le bonheur tel que la définition ordinaire le présente est une illusion pour Flaubert, et c'est une illusion en plus qui est dangereuse, qui est toxique, parce que si vous faites croire à un homme qui sait bien tout ce qui lui fait défaut dans sa vie, que la plénitude existe quelque part, alors il jugera que sa vie est anormale, que sa vie est ratée. Quand on fait croire à quelqu'un que le bonheur existe, en fait, on rend ce quelqu'un profondément malheureux. C'est aussi la phrase de Proust qui nous dit « ce qu'il y a d'admirable dans le bonheur des autres, c'est qu'on y croit ». Quand on croit que l'état de plénitude existe, eh bien, on est profondément malheureux quand on observe sa propre existence. Et c'est là que le concept de bonheur, non seulement est une illusion, mais est une illusion dangereuse. Et c'est pour ça que Flaubert écrit Madame Bovary pour nous guérir définitivement. Donc peut-être première résolution pour vos auditeurs, lire Madame Bovary si ce n'est pas déjà fait, ou le relire en ce début d'année, pour vraiment se défendre de ce qui pourrait les rendre profondément malheureux en 2022, à savoir l'espérance du bonheur.
Mmh. Alors, bon, l'espérance du bonheur, impossible. Est-ce que, du coup, on peut dire que le bonheur est une quête, la quête d'un absolu, mais qu'on n'atteint juste jamais?
Oui, et c'est pas une définition qui est vulgaire du bonheur. Hein. Kant, par exemple, définit le bonheur comme ça, hein, comme un état de satisfaction de tous nos désirs, tous, et un degré d'intensité maximale et dans la durée. C'est ça le concept de bonheur, hein. C'est la plénitude totale, la complétude. On voit bien que ce concept de bonheur est une illusion. L'état de complétude, l'état de plénitude n'est pas de ce monde. Au regard de ce concept-là, nous ne pouvons qu'être en défaut et donc profondément malheureux. Voilà le problème du concept de ce concept-là de bonheur auquel d'autres philosophes définissent différemment.
Alors voilà, c'est là où on en arrive à Nietzsche, qui a une toute autre définition, une toute autre explication. Et effectivement, pour Nietzsche, le bonheur, c'est savoir dire oui à la vie. Ça paraît très simple, je dirais même que ça paraît très joli. Mais ça veut dire quoi, dire oui à la vie, Marianne Chaillon ?
Ça paraît très simple, vous avez raison, et je pense. Mais néanmoins, il faut une force incroyable pour parvenir à dire oui à la vie. Alors qu'est-ce que Nietzsche entend par là ? D'ailleurs, Nietzsche lui-même se formule des vœux, comme chacun d'entre nous, lorsque s'ouvre pour lui la nouvelle année. Alors pour lui, c'est pas 2022, c'est 1882. Et le vœu qu'il se formule à lui-même et qu'on trouve dans le Gai Savoir, c'est justement d'être cet homme qui dit oui à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mm-hmm. Ça veut dire qu'il veut se défaire de cette illusion d'un bonheur qui ne serait que ciel bleu sans nuages, que joie sans douleur, que vie sans souffrance. Il considère que c'est une erreur fondamentale que de penser qu'il faudrait se libérer de la maladie, de la vieillesse, de l'angoisse, de la douleur et de la mort pour être heureux. Si le bonheur existe, et le bonheur existe, il consiste dans cette capacité à assumer cette confrontation avec la souffrance et l'incertitude qui sont propres à la vie. Et vous voyez ce que Nietzsche nous apprend, en fait. C'est utile pour nous en 2022. Nous sommes tous, je pense, assez fatigués devant ce que nous vivons depuis deux ans et ce qui s'annonce à nous pour 2022. Mais Nietzsche nous dit, il est néanmoins possible d'être heureux, car le bonheur, ce ne serait pas de ne pas souffrir. Le bonheur, c'est d'accueillir les souffrances qui sont indépassables dans la vie, qui sont inévitables, et de les accueillir sans vouloir les rejeter, de comprendre qu'elles sont nécessaires à l'existence et d'aimer la vie pour ce qu'elle est. Pour ce qu'elle est, c'est-à-dire aussi parfois la souffrance, la joie, mais aussi la souffrance.
Donc dire oui, c'est dire oui à tout dans le monde contraint. Vous en parliez à l'instant, hein, qui est le nôtre en ce moment, on accepte tout.
Oui, on pourrait prendre une comparaison qui serait la suivante, c'est qu'il faudrait pouvoir observer 2021 que nous venons de vivre et accueillir 2022, un peu comme on se tiendrait à l'autel devant la personne qu'on va épouser et dire à ces deux années-là, je vous prends pour le meilleur de ce que vous nous avez offert, mais aussi pour le pire. Mmh. Et si nous sommes capables de cet accueil-là, de cette acceptation-là, c'est pas évident, hein, mais si nous en sommes capables, alors nous sommes dans ce qui est le véritable état de bonheur, qui est cet état d'acceptation, d'assentiment à la réalité de la vie telle qu'elle est.
Alors vous dites c'est pas évident, je vais rebondir sur ça, parce que la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on devient cet homme ou cette femme qui sait dire oui à ce que lui offre la vie. C'est un apprentissage, ça j'imagine, non ?
Oui, et ça passe par le fait d'extirper de soi tout un certain nombre de désirs qui sont contraires à l'essence de la vie. Par exemple, je suis sûre que vos auditeurs, comme moi-même, peut-être comme vous, vous avez porté en vous cette tentation de vouloir retenir certains moments de votre vie parce qu'ils étaient particulièrement joyeux.
Bien sûr.
Peut-être que vous avez, comme Piaf, vous vous rappelez sans doute cette chanson « Mon Dieu », supplié un dieu ou que sais-je, de vous laisser encore un peu de temps pour vivre ce moment heureux que vous pensiez vivre. Eh bien, lorsque nous voulons que les instants durent, par exemple, nous sommes dans une position qui est antinomique avec l'essence de la vie. Et ce genre de désir nous font de nous automatiquement la proie du diable, pour reprendre le vocabulaire de Flaubert. Automatiquement, nous devenons malheureux. Et donc, quand vous me dites « est-ce que c'est une tâche ?» Oui, c'est une tâche. Il faut extirper de soi tous les désirs qui sont contraires à l'essence de la vie. Par exemple, ne pas vouloir perdre l'autre, rejeter l'expérience de la mort, de la maladie, de la vieillesse, voir en elle des erreurs ou des accidents de l'existence. Voilà des choses qui sont pourtant extrêmement répandues et qui sont des objections à l'état de bonheur. Il faudrait comprendre, il faudrait aimer la vie pour ce qu'elle est et donc accepter ces choses-là, non pas comme des accidents, mais comme des événements indépassables de l'existence.
Mmh. Alors on comprend bien, hein, tout accepter, le pire comme le meilleur. Ça me semble quand même assez contradictoire avec la vie qu'on vit aujourd'hui, celle dans laquelle on est, c'est-à-dire celle qui nous pousse en permanence à aller plus vite, à aller plus haut, à aller plus fort. On vit dans un monde de perfection, ou en tout cas on essaye de toucher en permanence cette perfection, et là vous nous dites ben, il faut accepter les défauts comme les qualités. C'est compliqué dans la vie d'aujourd'hui de faire ça.
Oui, vous pointez du doigt une forme d'injonction au bonheur, une forme de tyrannie du bonheur, c'est vrai, dans nos sociétés occidentales. Tyrannie qui en plus se double d'une certaine définition du concept de bonheur, hein, comme plénitude, complétude, parvenir à réussir sa vie. Et effectivement, je pense qu'il faut se défaire d'abord de ce concept de bonheur tyrannique et illusoire, se déprendre de cette injonction au bonheur pour se mettre en quête du bonheur possible qui passe par la reconnaissance que l'état de complétude n'est pas atteignable et donc par le fait de ne pas reconnaître sa propre incomplétude comme un échec, mais comme la dimension nécessaire de l'existence. Et donc il faut apprendre à aimer notre incomplétude comme l'envers d'un possible sans cesse renouvelé. Mmh. En fait, si on prenait une métaphore un peu littéraire, je crois qu'il faut accepter de se dire que vivre, c'est écrire, se reprendre, raturer, tourner la page, écrire à nouveau, et que jamais nous ne parviendrons à un livre achevé. Et il faut aimer tenir le stylo et écrire sa propre rime.
Alors c'est effectivement ce que vous écrivez très bien dans votre livre. Là, c'est sous votre plume. Vous dites « exister », je vous cite, hein, « c'est une tâche épuisante parce qu'il faut choisir, renoncer, affirmer, oser, affronter, tenter, perdre, se relever, assumer, recommencer, et tout cela sans fin. » Et vous poursuivez, je vous cite encore, vous dites « n'est-il pas infiniment plus simple de suivre une route balisée par avance ?» Bah évidemment que c'est beaucoup plus simple, j'ai envie de vous dire. Vivre, exister, effectivement, c'est compliqué. Est-ce que tout le monde, Marianne Chaillon, est capable de vivre et d'exister ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, vos philosophes, à ce sujet-là ?
Qu'il y a une réelle différence, effectivement, entre vivre et exister. Vivre, c'est se tenir là, comme être vivant d'un point de vue biologique, mais qui existe vraiment parmi nous ? Et que faut-il pour exister ? Pour exister pleinement, et je crois que exister pleinement est la condition de possibilité du bonheur, pour exister pleinement, il faut s'emparer du propre stylo de sa vie et d'être l'auteur de son existence. Et effectivement, ça nécessite beaucoup de courage, ça nécessite beaucoup de volonté et de force, et d'assumer la peur, d'assumer le risque de l'échec. Il faut oser exister, et il n'y a pas de jugement de ma part, parce que exister est une tâche, comme vous l'avez dit, épuisante. Mm-hmm. Beaucoup d'entre nous renoncent, mais renonçant à exister, je le crains, renonce à la possibilité d'atteindre le bonheur.
Mais la question, c'est est-ce que tout le monde peut accéder au bonheur ? Enfin, est-ce que tout le monde est armé de la même façon pour faire face aux épreuves de la vie ? J'ai envie de dire non.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est... Oui, tout dépend, encore une fois, du degré d'illusion que nous entretenons avec ce que peut nous offrir l'existence. si nous croyons que la vie est une promesse de joie incessante, que la maladie, la douleur et la souffrance sont des échecs ou des ratés, alors nécessairement, nous prenons tout de manière extrêmement violente. Si nous sommes prévenus, si nous sommes avertis, si nous sommes lucides, alors il ne s'agit pas du tout de cultiver la souffrance, il ne s'agit pas du tout d'être pessimiste, il s'agit d'être réaliste et lucide sur ce que nous offre la vie. À partir de là, alors la lucidité, bien sûr, ça blesse. La lucidité, bien sûr, requiert une certaine force. Mais enfin, à partir du moment où on observe les choses en face, alors on peut être heureux.
Est-ce qu'il y a des gens, Marianne Chaillon, qui sont bien plus faits pour le bonheur que d'autres ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Je crois pas qu'il y ait une forme d'élitisme du bonheur, mais je pense qu'il faut pour cela arriver. Et ça, c'est pas simple dans le sens où ça requiert une forme de courage. Et il n'y a pas de jugement de ma part en disant cela, mais il faut effectivement s'émanciper des routes tout tracées qu'on nous a définies par avance et de certaines définitions qu'on nous a données de ce que c'est que vivre sa vie, que réussir sa vie, que d'être heureux. Il faut oser s'emparer de sa propre existence pour l'écrire soi-même et pour peut-être, effectivement, en tant qu'auteur de sa vie, trouver les voies de son propre bonheur.
Et donc, pour conclure, si je vous ai bien entendu, il ne faut pas accorder de place, ou en tout cas pas une place trop grande, à ce qu'on appelle les petits bonheurs. C'est pas ça le bonheur ?
Non, alors les petits bonheurs, pour moi l'expression est maladroite parce qu'il s'agit souvent de petites joies en vérité. Ça me fait penser à ce livre bien connu de Philippe Delerme, La première gorgée de bière et autres petits plaisirs de l'existence. On a des petites joies, des petits plaisirs et tant mieux. Il faut se convertir à la joie, c'est déjà très bien, c'est déjà s'être défait de cet idéal inatteignable du bonheur comme plénitude. Donc c'est déjà très bien. Et ce que je propose dans mon essai avec Montaigne, avec Camus, avec Nietzsche, c'est d'aller plus loin encore. Bien sûr, se faire adepte de la joie, mais ne pas s'interdire l'expérience du bonheur une fois qu'on a compris ce en quoi elle consiste réellement et qui est cette capacité à se tenir debout face à la vie et à la regarder et à l'aimer pour ce qu'elle est.
Voilà, 2022, il faut qu'on se tienne debout. Merci Marianne Chaillon, merci infiniment. Permettez-moi évidemment de vous présenter encore une fois et pour finir tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Où donc est le bonheur ? C'est un cours de philosophie, celui que vous enseignez d'ailleurs à vos élèves à Marseille et c'est publié, je le redis, aux éditions des Équateurs. Je vous souhaite un très beau 1er janvier.
Merci vous aussi.